Bonjour, bienvenue à votre émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui vous parle. Je suis en compagnie de Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Bonjour Francine.
Bonjour Claude.
Nous allons regarder ensemble le texte d'Évangile qui sera proclamé dans le cadre de la vigile pascale dans les églises ce soir et cette nuit. Le même texte peut très bien être repris dans les célébrations de demain, du dimanche de Pâques au matin. Il s'agit d'un extrait de l'Évangile selon saint Luc. Rappelons-nous que nous sommes dans l'année de Luc. C'est au chapitre 24. Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser lorsque deux hommes se présentèrent à elles avec un vêtement éblouissant. Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers le sol. Ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et que le troisième jour, il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent ces paroles. Revenant du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent du délire et ils ne les croyaient pas. Cependant, Pierre partit et courut au tombeau. Mais en se penchant, il ne vit que les bandelettes. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé.
Vous voyez, Claude, peut-être ce qui frappe dans ce récit, c'est que c'est une histoire de femme. Et c'est même mis en valeur dans la conclusion lorsque les hommes arrivent, puisqu'ils ne croient pas les histoires de bonnes femmes, pourrait-on dire. Je signale que même si Luc est particulièrement intéressé aux femmes comme disciples, ce récit du tombeau vide trouvé par des femmes, on le retrouve aussi bien dans Marc, dans Matthieu et dans Jean avec Marie-Madeleine. Donc, c'est un récit assez traditionnel, un peu étonnant parce que dans l'Antiquité, le témoignage des femmes n'est pas vraiment recevable au plan légal. Bon, est-ce que Luc ou les autres ont une raison particulière de mettre les femmes à cette découverte du tombeau, on pourra le constater. On verra surtout comment Luc utilise ce récit traditionnel. Ce qui nous intéresse, c'est toujours davantage le niveau catéchétique ou théologique du texte, plutôt que la question historique. Vous avez peut-être remarqué, Claude, que Luc nomme les femmes seulement à la fin du récit. Dans Matthieu, Marc et Jean, c'est au début qu'on sait à qui on a affaire. Ici, on ne le sait qu'à la fin. Un peu comme si Luc préfère les désigner dans leur stature de témoin, je dirais, au lieu de les nommer comme femmes venant embaumer, c'est-à-dire rendre hommage à un mort, il ne les nomme que lorsqu'elles sont devenues porteuses de l'annonce des grands événements de Pâques. Alors ça, je trouve que c'est un déplacement intéressant. mais pour que nous sachions à qui nous avons affaire, nous, on va les nommer tout de suite au début du commentaire, les noms que Luc nous donne et les identifier rapidement. Ça peut varier d'un évangile à l'autre. On a Marie de Magdala qui est partout dans les quatre évangiles. En passant le lectionnaire, mais Marie-Madeleine, Madeleine étant simplement l'évolution de Marie la Magdaléenne, c'est-à-dire originaire de Magdala. Donc, c'est Marie de Magdala. Et il y a aussi une autre Marie chez Luc, comme chez Marc et Matthieu. Et Luc ajoute un nom qu'on ne trouve nulle part ailleurs, qui est Jeanne. Et on dit qui est cette Jeanne, c'est pas Jeanne d'Arc. Si on veut savoir qui elle est, on doit aller au chapitre 8 de l'Évangile de Luc, au tout début du chapitre, et on lit que Jésus proclamait la bonne nouvelle de Dieu dans les villes et dans les villages, donc c'est une sorte de sommaire, un résumé de son action. Les douze étaient avec lui, et aussi des femmes, donc qui étaient avec lui, c'est-à-dire que Luc intègre dans un groupe de disciples assez permanent des femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Donc, des femmes qui avaient été malades et que Jésus avait guéries. Et Luc nomme Marie de Magdala, Jeanne, épouse de Chouza, intendant d'Hérode. Donc, cette Jeanne qui a quitté un statut social fort intéressant pour suivre Jésus, être l'épouse de l'intendant d'Hérode, c'est pas rien. Et il nomme encore Luc Suzanne, qu'il n'identifie pas autrement, et beaucoup d'autres qui les aidaient de leur bien. Alors, je rappelle que c'est au tout début du chapitre 8 de Luc, et ça montre bien le souci chez Luc de valoriser autant que possible, à chaque fois qu'il en a l'occasion, le rôle des femmes, parce que Luc, qui écrit aussi les Actes des apôtres, a constaté l'importance du rôle des femmes dans les communautés chrétiennes, et donc, il en fait écho aussi dans l'Évangile. Et je rappelle que, donc, au tout début de ce chapitre 8, Luc ajoute « et beaucoup d'autres qui les aidaient de leur bien ». On en trouve un écho dans notre récit du tombeau, à la finale, lorsque les femmes vont parler aux apôtres, Luc va ajouter « les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose ». Donc, on ne doit pas considérer les deux, trois noms comme des figures d'exception, mais simplement comme des personnages nommés à l'intérieur d'un groupe de femmes plus vaste.
Bien. Maintenant, Francine Robert, ce récit, il est préparé par les deux versets qui précèdent, que moi je trouve très, très importants. Hein? Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée regardent le tombeau. C'est au moment de la descente de Jésus de la croix, là, avec Joseph d'Arimathie. Alors, elle regarde le tombeau et comment son corps a été placé, là. Je cite Luc, là. Hein?
Oui.
Et puis, elle s'en retourne et prépare aromates et parfums. Durant le sabbat, elles observent le repos selon le commandement.
Oui.
On voit que ces femmes-là, finalement, il n'y a pas question du tout de résurrection. C'est, on se prépare à vivre le deuil.
Certainement. Et c'est comme ça dans les quatre évangiles. Mais ce qui est particulier à Luc, c'est cette précision que déjà elle prépare les aromates et parfums avant. Cette autre précision qu'elle regarde comment le corps a été placé. Et ce qui est propre à Luc encore, c'est que les femmes ont respecté le sabbat, c'est-à-dire qu'elles sont présentées comme des pratiquantes. Hein? Et le sabbat, bien sûr, qui est un jour consacré. Et elles ont déjà entamé, d'une certaine manière, le processus de deuil. Comme vous le dites bien, elles ne s'attendent pas à la résurrection de Jésus.
Et pourtant, on croyait à la résurrection.
Oui, dans la foi juive,
déjà... Et ça
serait
intéressant, justement, rapidement, que vous nous disiez, rapidement, là, dans la foi juive, justement.
D'accord, bien sûr, oui. Dans la foi juive, depuis environ 150 ans, en fait, depuis la période des frères Maccabées, on croit, certains courants religieux, je dirais, on doit exclure des courants plus conservateurs, mais la plupart des courants de foi juive croient que Dieu peut relever les morts. On ne croit pas à une résurrection naturelle, là. On ne croit pas à l'âme immortelle, par exemple. On n'est pas en monde grec, là. Mais parce que les Maccabées et beaucoup d'autres en même temps qu'eux, 150 ans avant Jésus-Christ, ont été tués,
Pour leur foi,
c'est
finalement.
C'est ça,
ils sont morts martyrs.
Exactement. Mm-hmm. Et donc, ils voulaient rester fidèles à Dieu. Alors, c'est comme si la réflexion avait été creusée par cette expérience et on se disait, on veut être fidèle au Dieu fidèle. Dieu est assez fidèle pour nous permettre de continuer de vivre en relation avec lui, puisque c'est pour vivre en relation avec lui qu'on se fait tuer. Vous voyez, c'est comme ça que la foi en la résurrection a pris, je dirais, de la densité donc, dans la foi juive.
Et l'allusion au troisième jour.
Alors, c'est ça. On pourrait se dire, oui, mais Jésus, il n'a pas parlé de la résurrection de tout le monde, il a parlé de la sienne, et il annonce, on dit toujours les annonces de la Passion, mais habituellement, il se termine par « et il sera ressuscité le troisième jour ». Et entre vous et moi, Claude, je suis sûr que si nous avions été là et que le troisième jour avait eu un sens vraiment chronologique, nous aurions été au tombeau le dimanche pour se dire, c'est écoute, c'est le troisième jour, il a dit qu'il ressusciterait.
Il l'a dit, on va assister au spectacle.
On va voir ça, oui, écoute, puis on va avoir hâte et puis on va être content. Mais ce troisième jour, donc, les exégètes s'entendent pour dire qu'il est une expression à portée symbolique. On le voit dans des écrits juifs de cette époque-là, hein, donc du premier siècle, lorsque les auteurs juifs réfléchissent à la résurrection qui va arriver au jour du règne de Dieu, ils désignent ce jour parfois comme étant le troisième jour. Et ils le font à partir d'un passage du prophète Osée au chapitre 6, le verset 2, qui dit « Après deux jours, il nous fera revivre. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. » Et il y a un commentaire juif qui précise « Le troisième jour, c'est-à-dire au jour du relèvement des morts. » Donc, on voit que le troisième jour, quand Jésus en parle, pour ses disciples, c'est familier. Ça ne veut pas dire le surlendemain du jour où je serai tué. Ça veut dire « Je serai ressuscité le jour où Dieu relèvera les morts. » Le troisième jour, c'est le jour de la fin, c'est le règne de Dieu. Donc, il n'y a pas de chronologie là-dedans et personne ne s'attend à ce que trois jours ou le troisième jour après la mort de Jésus, il ressuscite.
Donc, ces dames se rendent le premier jour, le lendemain du sabbat, c'est-à-dire que c'est la semaine de travail qui commence.
Voilà, hein? C'est le premier jour de la semaine.
C'est un jour de travail, le premier jour de la semaine, elles se rendent, donc, jour de vie, de la vie ordinaire,
oui,
disons.
Tout à fait.
Elles se préparent à vivre leur deuil. Là. Elles,
c'est ça, exactement.
Elles s'en vont vivre leur deuil.
On n'est pas dans un temps sacré.
Accomplir les rites, etc.
Oui. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la plus grande manifestation de la révélation chrétienne ne se passe pas un jour saint ou un jour sacré, mais un jour profane. Et c'est la même chose pour le lieu. Ça ne se passe pas dans un temple ou dans une église ou dans une synagogue. Ça se passe aussi en dehors des lieux saints ou des lieux consacrés. C'est même à l'opposé parce que le contact avec le monde de la mort, ça rend impur au plan rituel. Donc, le plus grand mystère, si on veut, de la foi chrétienne, se passe en dehors des temps et des lieux sacrés.
Et Luc ajoute, elle ne trouve pas le corps du Seigneur Jésus.
Oui, donc, arrivant en ce temps et en ce lieu, elle ne trouve pas le corps du Seigneur. Elle l'avait regardé, pourtant. Et on voit qu'elles sont perplexes. Donc, on a des précisions.
Bien, on le sera en moins, je vais vous dire.
Oui, bien sûr. Surtout que Luc a bien précisé qu'elles avaient regardé comment il avait été placé. Il a insisté, et cette insistance lui permet de montrer que l'événement pascal va déjouer toutes les prévisions, toutes les planifications, toutes les précautions. Elles avaient pris la précaution de s'assurer que le corps était bien là. Et donc, c'est une manière assez fine pour Luc de signaler que ce qui arrive échappe totalement. Et d'une certaine manière, j'irai un petit peu plus loin, c'est le corps de Jésus qui échappe. Hein? Tout comme lorsqu'on lit le récit des disciples d'Emmaüs et qu'on le voit cheminer et que les disciples d'Emmaüs ne le reconnaissent pas. Hein? Parce que le corps du Jésus qu'ils ont connu échappe. Finalement. On ne sait pas de quoi il avait l'air une fois ressuscité, mais le corps échappe à jamais, vous voyez. Donc, c'est intéressant.
Et parlons maintenant des deux hommes.
Oui.
Les deux hommes en vêtements éblouissants.
Oui.
Il y a quand même une incidence sur le vêtement.
Oui, hein? Qui leur donne un petit peu le rôle d'ange, hein, en fait. Luc dit deux hommes, il n'insiste pas sur les choses merveilleuses. Contrairement à Matthieu, avec l'ange du Seigneur, par exemple.
Il s'adresse à des Grecs, hein?
Oui, c'est ça, exactement. Donc, ce ne sont pas les personnages les plus importants. Alors, il les désigne comme des hommes. Le vêtement est éblouissant. Le seul autre endroit dans tout le Nouveau Testament où on trouve cet adjectif, c'est aussi dans Luc, et c'est le vêtement de Jésus à la Transfiguration. Et le mot qui est à la racine de cet adjectif éblouissant, c'est un mot qui a rapport avec la lumière, l'éclairage, c'est aster. C'est le mot
qui a donné astre
en français.
Étoile,
voilà.
C'est une étoile.
C'est ça. Ouais. Donc, c'est une lumière qui brille dans la ténèbre, finalement, pour les femmes qui sont dans le deuil. Et là, elles sont saisies de crainte et elles baissent le visage vers le sol. Ce qui est une manière de formuler les choses qui s'y rapproche assez bien des prophètes Ézéchiel et Daniel lorsqu'ils racontent des visions et le voyant étant saisi de crainte tombe à terre sur sa face. Hein? Donc, elles sont décrites un petit peu comme ça, des voyants.
Et là, les deux hommes posent une question. Au lieu de faire une affirmation, les deux hommes interpellent
oui,
les femmes.
Oui, ça, c'est une des deux plus grandes originalités dans le récit de Luc. On en a déjà signalé plusieurs petites. Ouais. Mais ici, au lieu de simplement traiter les femmes comme des gens devant aller faire des messages à d'autres, les messagers s'adressent à elles et les posent comme sujet de réflexion en leur posant une question. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Et je signale en passant que cette question est très proche de la toute première parole de Jésus dans l'Évangile de Luc, au temple à 12 ans, qui dit à ses parents, « Pourquoi me cherchez-vous? » Et ici, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? » Et ses parents le cherchaient depuis 3 jours, d'ailleurs. Hein? Il y a des similitudes.
Ah, il y a des similitudes
qui
intéressantes.
Qui sont toute évidence rédactionnelles, c'est-à-dire qui sont construites par Luc. Hein? Alors, cette question-là, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts, on voit bien qu'elle construit une très forte opposition mort-vie, le vivant parmi les morts. Vous cherchez un mort, vous êtes tourné vers un mort, alors que lui, il est le vivant par excellence. Luc est le seul à désigner Jésus comme le vivant. Dans les autres récits du tombeau, l'ange se contente de dire « Il est ressuscité, il n'est pas ici. » Bon, ici, c'est d'abord le vivant. Et il radicalise la formule parce qu'il utilise « vivant » comme un titre. D'ailleurs, les Bibles, habituellement, mettent un V majuscule ici.
Oui.
Parce que c'est un verbe, normalement, hein, « vivre », puis il est conjugué tout simplement au participe présent. Alors, qu'est-ce que Luc fait pour l'accentuer?
Il est précédé d'un article,
un article défini. Mm-hmm. Alors, non pas « vous cherchez celui qui est vivant », mais vous cherchez « le vivant ». Et du coup, au lieu de simplement dire que Jésus est en vie, ça le désigne comme « le vivant par excellence ». Et en faisant ça, Luc donne donc la priorité, non pas d'abord à l'événement de la résurrection, Dieu l'a réveillé d'entre les morts, il va le faire dire juste après, mais ce qui l'intéresse, c'est la qualité de vivant par excellence que Jésus assume maintenant.
Et on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, hein, au tout premier chapitre, « Je suis le vivant ».
Oui.
« Je fus mort et voici, je suis vivant pour les siècles et je tiens les clés de la mort, mais je suis le vivant ».
Tout à fait. Et c'est le texte dans deuxième lecture, je crois bien, de dimanche prochain. Hein. On trouve dans Acte 3 aussi, le livre des Actes, hein, qui est composé par Luc, un titre auquel on n'est pas du tout habitué. C'est dommage parce que c'est beau. Jésus est désigné comme le prince de la vie.
Ouais.
C'est ce qui est très beau aussi.
Bon, ensuite, les hommes, enfin,
les deux anges, oui.
Là, ils font, après avoir posé la question, ils font appel à la mémoire.
Oui, ils font appel à la mémoire des femmes. Rappelez-vous.
C'est ça.
Alors
c'est
là aussi, elles sont vraiment posées comme sujet de réflexion et non pas d'abord porteuses de messages. Je devrais même pas dire non pas d'abord parce que les deux hommes ne diront pas aux femmes d'aller porter des messages. Ça va aller de soi. Bon, rappelez-vous, comme il vous a dit quand il était encore en Galilée. Bon, ici, Luc a d'abord besoin de régler un problème. Hein. C'est que dans les récits du tombeau vide chez Marc et Matthieu, le message, c'est « dites aux disciples d'aller en Galilée, il vous précède là, et c'est là que vous le verrez ». Or, Luc, dans l'ensemble des traditions qui ont été transmises sur les expériences d'apparition, Luc a décidé de privilégier les apparitions qui ont lieu à Jérusalem. Donc, ça ne l'intéresse pas d'envoyer les disciples en Galilée, puisque toute la suite doit se passer à Jérusalem. Pour Luc, c'est là que son évangile commence, c'est là que son évangile se termine, et c'est là que la mission dans Actes des apôtres va commencer. Alors, il n'est pas question d'un ange qui dirait « allez leur dire d'aller en Galilée ». Et donc, il récupère la Galilée autrement, de façon assez astucieuse. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il était encore en Galilée? Bien, une de ces annonces de la Passion dont je parlais tout à l'heure, il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite.
Et rappelons que cette annonce que vous venez tout juste de dire revient trois fois, effectivement.
C'est vrai, dans Luc, comme dans Marc, comme dans Matthieu, ça revient trois fois.
Donc, il fait appel à la mémoire.
À la mémoire,
Rappelez-vous ça.
Oui, et soyons précis, au cas où des gens auraient des doutes, cette première annonce, lorsque Jésus fait sa première annonce de la Passion, on est au chapitre 9, le verset 22, on est non pas avec le groupe des 12, mais avec un groupe large de disciples. Hein. Donc, si quelqu'un s'est dit, ouais, mais les femmes n'étaient pas là quand Jésus a parlé de sa Passion, là, c'est avec les 12, ça c'est dans Marc. Ça va dans Luc, c'est un groupe large de disciples. C'est seulement la troisième annonce où Luc va préciser
autrement
qu'il
dit,
s'adresse aux 12.
Ces femmes-là ont déjà entendu.
Ont certainement pu, en tout cas, avoir entendu cette parole, puisque leur présence, elle est signalée dès le chapitre 8, et la première annonce de la Passion, elle arrive au chapitre 9. Mm-hmm. Et donc, elles font partie d'un groupe stable de disciples, et indépendamment de cet aspect historique, pour Luc, elles sont les figures valables, elles sont des figures valables de disciples, qui ont entendu les paroles de Jésus, qui peuvent s'en souvenir, et s'en éclairer, et s'en nourrir. Et alors, elles se rappelèrent ces paroles, ajoute Luc. Et donc, ça fait appel non pas seulement à des paroles, mais à l'expérience vécue avec Jésus, à la suivance. Et voyez, c'est intéressant comment, pour régler un petit problème de rendez-vous en Galilée que Luc ne veut pas donner, il ajoute une sorte de processus de mémoire qui fait que ça renvoie à la tâche de tout disciple, le mécanisme de se rappeler des paroles de Jésus.
Et ça, c'est ça qui les fait sortir du deuil.
Oui. Et c'est encore...
Et d'accueillir la nouveauté radicale qui leur est annoncée.
Absolument.
C'est dans la mesure où elles font appel aux paroles que Jésus a prononcées.
Oui. Comme si c'est le retour au vivant d'avant qui leur permet de dépasser le mort de maintenant pour accueillir le nouveau vivant. Hein? Cette mémoire des paroles de Jésus, elle les met en marche, comme ce que devraient faire les paroles de Jésus pour tout disciple. Hein?
Et le verbe utilisé, c'est le verbe « se souvenir hein? », »,« souvenez-vous ».
Oui.
Qui traduit Naomai, en lien avec le tombeau.
Oui, tout à fait. Un tombeau, ça se dit mnema ou mnemeion, et la conjonction des consonnes MN est à la source, par exemple, de notre mot amnésie. Vous voyez, c'est lié à la mémoire. Et donc, elles vont passer, se souvenant des paroles du vivant, elles vont quitter le lieu où on fait mémoire du mort pour aller faire mémoire du nouveau vivant. Vous voyez, ça, c'est vraiment c'est un beau jeu de mots, là. Mm-hmm. Et bien sûr, c'est ici que Luc va les nommer, ces femmes. C'est là qu'il mentionne leur nom parce qu'il les désigne vraiment dans leur stature de témoins qui ont compris quelque chose et qui vont porter ce nouveau message aux autres disciples, hein. Et d'ailleurs, il mentionne, Luc, que lorsque ces femmes vont dire aux disciples ce qui s'est passé, Luc ajoute, les autres femmes avec elles disaient la même chose aux apôtres. Et c'est, je crois, volontairement ambigu. Est-ce que c'est d'autres femmes qui étaient avec elles au tombeau qui disent aux apôtres ce qui s'est passé? Ou est-ce que c'est d'autres femmes qui sont dans le groupe avec les disciples et qui, entendant ces femmes-là parler, les croient et ajoutent leur voix à celle des trois qui étaient là? Alors, bien sûr, les hommes considèrent ça comme du délire. Tom traduit du radotage, on pourrait dire des absurdités. On retrouve ici le même pattern d'opposition homme-femme, incrédulité-foi qu'on avait dès le début de l'Évangile entre Zacharie et Marie face à la parole de Gabriel. Et une finale rapide que nous trouvons dans le récit de Luc, c'est la visite de Pierre, qui est quand même un petit peu interpellé peut-être par la parole des femmes. Ce récit d'une très brève visite de Pierre au tombeau, qui va vérifier si ce que les femmes ont dit est vrai, mais qui ne voit que le tombeau vide. C'est un récit qui va être développé beaucoup plus longuement dans l'Évangile de Jean, avec le disciple bien-aimé. Ce qu'on a, c'est une catéchèse dans Jean. Alors qu'ici, on a simplement une mention. Et on voit que Pierre, qui va voir le tombeau vide, n'en repart pas avec la foi.
Ça dit, il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Il en reste à une réaction d'étonnement.
Hein? Et ça nous indique que le tombeau vide n'a jamais été utilisé dans le Nouveau Testament, nulle part, comme une preuve, ni même comme un signe fort de la résurrection de Jésus. C'est toujours accompagné d'une parole. Voyez, c'était la parole des anges, ça a été, et ça aurait dû être suffisant pour Pierre, la parole des femmes. Ça sera la parole du disciple bien-aimé éventuellement, mais c'est une parole qui donne le sens. Le tombeau vide n'a jamais été utilisé comme une preuve.
Alors, vous venez d'entendre Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains, à la technique Alain Primo, c'est Claude Julien qui vous parle, et nous trois, nous vous souhaitons des très joyeuses Pâques, et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à la même heure.